France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, comment la pratique théâtrale apaise l'anxiété sociale? Comment le théâtre peut aider les timides à rencontrer des inconnus dans la rue ou à s'exprimer en public? L'une des terreurs les plus communément admises. Nous verrons par quel mécanisme monter sur une scène sous le regard des autres permet paradoxalement d'apaiser son anxiété. C'est l'occasion également de s'intéresser aux mécanismes d'exposition à sa phobie dans les thérapies comportementales et cognitives. L'occasion aussi de faire le point sur ce qu'est l'anxiété sociale. Et vous racontez-nous comment vous avez surmonté votre timidité, la pratique théâtrale vous a-t-elle aidé? N'hésitez pas également à poser toutes vos questions sur la timidité. Questions et témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France, une émission en partenariat avec le mensuel Cerveau et Psycho. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse.
Quand j'étais petit, moi aussi j'étais très complexé. Alors, pas parce que j'étais pas à l'école, mais parce que voilà, c'était des complexes de timidité, j'étais pas très bien dans ma peau, etc. Et le théâtre, ça m'a beaucoup aidé, moi. Quand j'ai eu 15 ans, je crois, j'avais 14 ans ou 15 ans, et j'avais une prof de français au lycée qui m'a fait faire du théâtre. Au lieu de nous faire réciter Molière platement comme ça derrière nos tables, elle nous faisait monter devant le tableau et elle créait des scènes avec les élèves. Et moi j'étais très 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 timide. J'osais pas du tout faire ça, et en fait, le fait de m'exprimer avec les mots de quelqu'un d'autre, pas les miens, les mots d'un autre auteur, et de Molière en l'occurrence, donc pas les moindres, de m'exprimer avec les mots d'un autre, et ben tout d'un coup, je suis sorti de moi-même, de ma carapace et de mes complexes, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc je crois que le théâtre, pour tous les gens un peu complexés, de pouvoir sortir de leurs conditions, de leur peau, de leur mal-être, le théâtre, ça aide à s'envoler ailleurs.
Extrait des Rencontres du Papotin sur France 2 en 2023, le comédien Gilles Lelouch, ancien timide, qui dit merci au cours de théâtre avec sa prof de français. Bonjour professeur Antoine Pellissolo.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Vous êtes le co-auteur avec Christophe André et Patrick Légeron de La Nouvelle Peur des Autres, un ouvrage de référence sur le trac, la timidité et la phobie sociale. On a du mal à imaginer que Gilles Lelouch était timide, professeur Pellissolo.
Oui, sauf que comme on dit qu'à peu près la moitié ou les deux tiers de la population a été timide.
Jusqu'aux deux tiers.
Oui, à peu près, de toute façon, c'est très subjectif. Mmh. Mais en effet, beaucoup d'acteurs ou de personnalités publiques disent avoir notamment utilisé le regard de l'autre dans les situations comme ça un peu organisées pour aller mieux. Et finalement, c'est au départ une thérapie, et puis à la fin, c'est un aboutissement de projet éventuellement personnel.
Et vous, professeur Pellissolo, vous étiez timide, vous l'êtes toujours ou pas du tout.
Si, je crois que je fais partie de ce groupe d'humains au départ un peu impressionné par les situations nouvelles, et c'est ça la timidité. Et effectivement, l'entraînement, l'habitude de venir vous voir régulièrement fait du bien.
Bonjour Sébastien Boller.
Merci en tout cas pour l'invitation.
Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Docteur en neurosciences et rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho. Vous proposez un papier ce mois-ci sur le théâtre qui apaise l'anxiété sociale. Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour Ali.
Comédienne, humoriste, chroniqueuse sur France Inter. Vous enseignez le stand-up à l'école d'art dramatique Paul Clément auprès d'adultes amateurs. Dernier spectacle en ligne au Point Virgule tous les mardis jusqu'au 24 juin. Que faire des cons? Et vous êtes d'ailleurs titulaire d'un DESS en psychopathologie, l'équivalent d'un bac plus 5.
Tout à fait, ça ne me rajeunit pas.
Bonjour Sébastien Castro Valiero.
Bonjour.
Vous êtes dramaturge, comédien, metteur en scène, cofondateur du théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Dernier spectacle, prochain spectacle, D'autres jours viendront du 6 mars au 11 avril au théâtre El Duende. Racontez-nous ce qu'est le théâtre El Duende en quelques mots.
En quelques mots, on est un lieu, donc un théâtre, une coopérative aussi, et une troupe. Et en fait, on utilise toutes les palettes du théâtre Voilà, que ça soit dans la transmission, que dans la diffusion ou dans la création.
Et il y aura d'ailleurs des rencontres bientôt.
C'est ça, les rencontres à part entière, c'est celle du 17 février au 2 mars. Et c'est avec des personnes justement qui ont des handicaps psychiques, physiques ou moteurs. Et pendant deux semaines, ils ont ce lieu, enfin notre lieu, on le passe en tant que lieu de résidence pour qu'ils créent des spectacles.
Et qu'est-ce que vous leur proposez?
Bah, en fait, on propose un cadre professionnel, parce que ça c'est très important, parce que souvent pour ces personnes-là qui sont... on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer dans un cadre avec un régisseur, avec les conditions professionnelles. Et pour nous, c'est très important, puisque finalement, l'acte théâtral, que ça soit amateur ou professionnel, ça reste un acte théâtral. Et donc, c'est très important de mettre ça en avant.
Alors, on verra de quelle façon la pratique du théâtre permet de lutter contre l'anxiété sociale. Professeur Pellissolo, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'anxiété sociale?
Oui, alors c'est beaucoup de formes différentes de... peur du jugement de l'autre en général, avec...
Du regard et du jugement.
Alors, c'est le regard, mais qui est porteur du jugement négatif, avec un spectre très large. Ça va de la timidité, en effet, les premiers contacts, les gens qu'on ne connaît pas, et puis rapidement, on se met dans le bain et ça va mieux, jusqu'à des formes parfois paralysantes de souffrance psychique, qui s'appelle notamment la phobie sociale, dans lequel il peut y avoir une peur. Là, c'est plus qu'une anticipation, qu'une gêne, c'est vraiment une peur paralysante, dans laquelle on a vraiment une anticipation d'une catastrophe qui peut arriver, des attaques de panique quand on est confronté, des ruminations, et puis un sentiment qui va souvent avec, qui est la honte, c'est la peur associée à de la honte, donc quelque chose qui peut être très lourd. Mais il y a toutes les gammes, parce que bon, l'anxiété sociale, je disais, ça va de la timidité...
Au trac, ça commence même au trac.
Et le trac, quand c'est vraiment limité à la scène, notamment, ou au public.
Et ça peut aller jusqu'à la personnalité évitante. C'est voilà. Quoi ça exactement?
Alors c'est une forme un peu extensive de phobie sociale, dans lequel beaucoup de situations de la vie quotidienne deviennent un problème, donc avec le fait de redouter chaque nouveau contact, mais aussi les choses régulières, parce que même quand on connaît, on a peur. Donc c'est organiser sa vie autour de l'évitement. C'est pas forcément très différent des phobies sociales sévères.
Alors pour bien faire comprendre les choses, il y a quelques années, la présidente de l'Association américaine des troubles anxieux disait ceci à l'assistance d'un congrès mondial de psychiatrie, je la cite, « Imaginez qu'en rentrant dans cette salle, vous vous aperceviez soudain que vous êtes nu, c'est ce que vivent avec plus ou moins d'intensité les anxieux et les phobiques sociaux. »
Oui, c'est vraiment le sentiment de honte qu'on peut tous se représenter dans ces cas-là. L'impression d'être transparent aussi, l'impression qu'on ne peut pas cacher les choses parce que tout de suite les émotions sont visibles, parce que même les arrière-pensées sont visibles. Donc c'est un jeu de miroir, et ça sera important, intéressant pour le théâtre, un jeu de miroir entre ce qu'on ressent sur soi-même et ce qu'on pense sentir dans le regard de l'autre. Et c'est toujours quelque chose qui est très imaginaire et très porté par justement l'image qu'on a de soi-même. Donc c'est en effet se sentir au centre de l'attention, même si on l'est, mais de manière excessive, d'avoir du mal à se détacher de soi-même. C'est aussi un problème ensuite qui aggrave les choses, parce que dans ce cas-là, on ne s'habitue pas au regard de l'autre.
Et l'anxiété sociale peut devenir très handicapante, avec des conséquences assez fortes sur la vie sociale, hein.
Avec plus ou moins d'évitement, en effet, et surtout de la souffrance au quotidien pour les personnes qui ont peur de la plupart des situations sociales. Parfois, c'est plus sectorisé, mais pour d'autres, ça sera même l'échange, avec une personne dans l'ascenseur, ou avec des voisins, avec des collègues, parfois même des amis. Donc, ça peut teinter vraiment toute la journée d'anticipation, de souffrance. Alors, c'est évidemment quelque chose qu'il faut reconnaître, parce que l'avantage, on en parlera, c'est qu'on a des solutions, donc c'est un trouble qu'il faut dépister et soigner.
Alors, comme le rappelle ce bon vieux Kierkegaard, on n'est jamais timide que dans la mesure où on est vu. Pourquoi ce regard des autres pèse autant sur les anxieux sociaux ?
Alors, il pèse sur tout le monde. Je pense qu'on peut considérer que l'être humain est un animal qui a besoin de vivre en groupe, et donc à s'ajuster à l'autre, à être admis par l'autre notamment. Et souvent, à la base de l'anxiété sociale, il y a quand même cette peur d'être rejeté, de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, et donc d'être exclu. Donc il faut faire un effort pour montrer une bonne image de soi. Donc ça, c'est constant, et je pense que c'est une nécessité. Par contre, certaines personnes, on dit souvent comme les allergies, c'est-à-dire qu'une allergie, c'est quand même se protéger protéger contre quelque chose d'extérieur, bah, le regard de l'autre peut parfois effectivement être parfois un problème, et donc il faut s'y adapter. Et les personnes qui ont une anxiété sociale sont une espèce d'allergie un peu excessive au regard de l'autre, et pour des raisons qu'on ne sait pas bien, c'est à la fois de la génétique probablement et des histoires de vie quand même qui ont pu marquer.
Et puis il y a également dans les facteurs explicatifs des processus biologiques et neurobiologiques, des modes d'éducation et puis des pressions culturelles aussi. Hein.
Bien sûr, et surtout tout ce qui peut être traumatique quand même, hein, parce qu'on voit beaucoup d'enfants et ensuite d'adultes qui ont été marqués par des espèces de mauvais traitements, ou alors par le manque d'habitude. Hein. Il y a le facteur éducatif, des parents qui n'ont pas été un petit peu soutenants pour faciliter. Il y a vraiment plein de composantes. Et la composante biologique que vous citiez, elle me paraît importante, c'est vraiment le regard, parce que dans certaines espèces, même de mammifères ou d'autres animaux, le fait de cibler quelqu'un avec les yeux peut être un facteur, un signe d'agressivité. Donc on a peut-être chez certains aussi cette trace-là.
Et c'est vrai que chez les mammifères, le regard fixe sur un autre animal est une façon d'asseoir un comportement dominant. Sébastien Boller de Cerveau et Psycho.
Oui, je trouve c'est très important de rappeler qu'effectivement une majorité de personnes ont cette petite ont connu un jour dans leur vie ce sentiment de timidité ou d'anxiété face à l'autre. Je lisais un papier très intéressant de recherche hier justement qui rappelle une chose, c'est que dans la société où on vit, on rencontre des inconnus en permanence. Et les auteurs soulignent le fait que on n'est pas fait pour vivre avec des inconnus, parce que l'humanité a grandi dans des clans en général d'une centaine de personnes où on connaît tout le monde depuis le moment où on est né. Et il s'est passé un moment, quand les grandes villes se sont développées, où on s'est retrouvé entouré de personnes, on tombe sur des gens dans la rue, on ne connaît pas. Et là, c'est un challenge pour le cerveau. Parce qu'on ne sait pas si c'est un ami, si c'est un ennemi. C'est difficile de déchiffrer les intentions. Ça demande de l'énergie, c'est une pression psychique. Et il y a même cette étude dont je parle là, qui a montré que plus une personne a grandi dans une grande ville et confrontée au contact, à la pression du nombre et de l'anonymat, plus il y a une activation de ces circuits du stress et de l'anxiété, notamment de l'amygdale.
Est-ce qu'il manque en fait, dans le cerveau.
Voilà, dans le cerveau, qu'on est un petit peu tiré de notre tribu originelle et obligé de vivre parmi les inconnus, et c'est une pression psychique.
Le rôle de l'amygdale, en deux mots, faisons un peu de pédagogie.
Impliqué beaucoup dans le conditionnement de la peur, tous les phénomènes de peur, et y compris dans l'anxiété.
Je m'adresse aux deux comédiens en studio, Sébastien Castro Valiero, Sandra Colombo, avez-vous souffert de phobie sociale et de timidité, Sébastien Castro Valiero?
Ah bah oui, enfin, évidemment, moi je pense que comme on dit les autres invités, c'est quelque chose c'est notre point commun, de toute façon. Donc évidemment, alors le théâtre, vraiment, moi c'est un peu particulier parce que je viens d'une famille théâtrale, donc j'avais pas le choix. C'est pas quelque chose que j'ai découvert pour travailler sur ma timidité. Mais finalement, en travaillant sur moi-même, parce qu'en fait c'est vraiment le travail sur les émotions, sur le corps, d'un coup on arrive à se dépasser et puis après à le transmettre. Et c'est vrai que c'est un art magnifique parce qu'il est émancipateur et en même temps, il peut transformer en fait. Ouais. Et on est dans l'intime et dans l'universel puisqu'on raconte aussi une histoire.
Et on reviendra sur ce mystère. Vous êtes timide et vous montez sur scène sous le regard des autres. C'est assez mystérieux, mais peut-être que Antoine Pellissolo nous expliquera tout à l'heure ce mystère. Sandra Colombo, je subodore que vous étiez très modérément timide.
Oui, mais néanmoins, ça ne m'empêche pas, par exemple, d'avoir le trac à chaque fois que je joue. Hein, malgré tout, j'ai toujours le trac. Je pense que je suis une timide contrariée, parce que, comme disait Sébastien, moi, j'ai eu l'avantage de mettre mon corps à l'épreuve très tôt, puisque je faisais de la gym à assez haut niveau. J'étais sportive, et il faut tout le temps dépasser sa peur. Et je pense qu'en fait, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Le courage, c'est de ne pas avoir peur de sa peur », et c'est en effet ça, je pense qu'on expérimente, et le théâtre c'est beaucoup le corps aussi. Quand vous disiez le regard des autres, etc., c'est vraiment se confronter. En plus, moi, je fais du solo sur scène souvent. Se confronter tout seul, on ne peut pas se cacher. Et il faut accepter ça. Et en effet, je pense que le fait d'avoir été très jeune dans une pratique sportive assez intense, ça m'a permis d'expérimenter la peur, de la dépasser et de pouvoir après me dire « Ah, ben, je peux le faire, en fait. »
Un mot rapide sur le trac, Antoine Pellissolo. C'est quoi exactement le trac? C'est circonscrit, il y a eu une situation précise
Oui, dans une situation de performance, d'une part, et souvent de public. Alors, pas forcément toujours les deux, mais en tout cas, je peux rater quelque chose, donc j'anticipe de rater. Donc, ça, c'est une pression, un stress qui est plutôt bénéfique en général, parce que ça augmente le niveau d'attention. Et puis, quand même, le regard de l'autre, quand il y a un grand public, j'imagine, une scène, là, dans ces cas-là, ça augmente encore. Et c'est banal, voire même utile. Hein. Sarah Bernard, oui. Le trac viendra avec le talent. Enfin, c'est une citation.
Vous avez toujours le trac, Sébastien Castro-Valero?
Oui, de toute façon, mais c'est une manière de rentrer en... En fait, moi, je parle souvent avec mes élèves du corps domestique et du corps théâtral. C'est deux corps différents. C'est-à-dire que dans la vie, quand on va prendre son petit-déj, on marche d'une certaine manière chez soi. Mais quand on est sur le plateau, c'est une autre énergie. Donc, c'est très important, le corps. Souvent, on parle de la mémoire quand on parle du théâtre. Mais je pense que c'est exactement ce que dit... Sandra, c'est-à-dire que le corps, c'est la base, c'est d'abord ça, vraiment. Et à partir du moment où on commence à le travailler, on travaille aussi toutes ces angoisses à l'intérieur. C'est pour ça que ça sert, c'est un grand bienfait pour les personnes.
Je suis beaucoup aimé la description que vous avez, Sandra, le moment où on arrive sur scène et vous dites on ne peut pas se cacher. C'est exactement, en fait, le dispositif expérimental qui est utilisé pour étudier l'anxiété chez les souris. Ça s'appelle Elevated Plus Maze, c'est un endroit où la souris doit s'inventer toute seule, à un endroit où il y a de la lumière et elle ne peut pas se cacher. Et c'est le test de référence pour tester les anxiolytiques sur les modèles animaux.
Vous êtes une petite souris, Sandra Colombo.
Et voilà, je le savais.
Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femme Actuelle. Vous êtes timide ou sujette au trac?
Oh, timide, oui, vous l'avez dit, hein, oui. Docteur Pellissolo, tout le monde l'est, bien sûr.
Quel est le menu de vos questions toujours pertinentes, Marie-Laure ?
Alors, la réalité virtuelle est-elle une alternative pour ceux que le théâtre d'improvisation impressionne et les cours de théâtre obligatoires au collège sont-ils une réponse à cette anxiété ?
Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef d'Écran Total, un peu grognon, un peu timide, non ?
Les deux, c'est parfait.
Quel est le menu de votre petite mythologie d'un objet du quotidien ?
Bien, écoutez, l'énigme est assez facile. Ce matin, je vais parler d'Arlequin et de Giraud, donc forcément du masque.
France Inter.
Mettre un peu d'art dans sa vie et un peu de vie dans son art.
Grand bien vous fasse.
Mais ne l'oubliez pas, c'est quand le rideau se lève que votre vie commence. Il ne tient qu'à vous qu'elle continue le rideau une fois baissé. Pour cela, il suffit, après avoir cru en vos personnages, de croire un peu en vous.
Ali Rebéi.
Louis Jouvet dans Entrée des artistes. Quels sont les pouvoirs de la pratique théâtrale sur l'anxiété sociale ? C'est notre thème ce matin avec le mensuel Cerveau et Psycho. Sébastien Boller, est-ce qu'on assiste à une augmentation de l'anxiété sociale dans la population générale et chez les jeunes en particulier ?
Alors, il y a un certain nombre de sondages, effectivement, qui laissent penser qu'on est dans une période de grande anxiété, effectivement. Alors, anxiété sociale, je sais pas, mais de façon générale, effectivement, nous, on parlait d'une méta-analyse qui a été conduite par un service hospitalier au Canada qui montrait qu'effectivement, en 2023, on était à 11 à 19% des ados qui donnaient des signes d'anxiété sociale avant l'âge de 15 ans, alors qu'en 2009, ce pourcentage aurait été seulement de 4%. Après, tout dépend des critères diagnostiques, des seuils aussi qui sont utilisés. Ouais.
Et depuis la pandémie du Covid, on observe des augmentations similaires dans de nombreux pays, d'après une étude de synthèse, une méta-analyse menée par des chercheurs australiens. Professeur Antoine Pellissolo, je rappelle que vous êtes psychiatre. Vous assistez à cette augmentation de l'anxiété sociale dans votre service à l'hôpital Henri Mondor.
Je dirais ce qu'on voit en consultation, parce que c'est quand même des motifs plutôt de consultation que d'hospitalisation. C'est une accentuation de la souffrance, notamment des jeunes qui ont une propension déjà à l'anxiété sociale. Il n'y a pas forcément plus de cas, c'est difficile de toute façon à mesurer, mais ceux qui en souffrent plus, parce qu'il y a une pression importante vraiment de l'image maintenant, et les
réseaux sociaux
évidemment. Mmh. Et même, alors il y a eu une accélération avec le Covid, avec l'effet absolument attendu, c'est-à-dire que la distance sociale a préservé un certain nombre de gens qui étaient anxieux, sauf quand il faut y retourner pour de vrai, là, quand ils ont dû enlever le masque, notamment, c'est une image, mais pas que, et retourner dans les contacts réels, malheureusement, cet évitement obligé a fait qu'on a aggravé pour certains la gêne du relationnel.
Sandra Colombo, comédienne et humoriste.
Bah oui, moi j'ai vu ça au théâtre, même moi en fait, je veux dire, et en plus on nous a interdit pendant très longtemps de parler aux gens, c'était dangereux les autres, il fallait pas les côtoyer, etc. Et c'est vrai que finalement, il y a eu une sorte de repli, et même moi au théâtre, heureusement que le théâtre, la scène, c'est vraiment mon endroit où je me sens bien et sûre et tout ça, ce qui est un peu bizarre par rapport à l'histoire des souris, finalement je suis peut-être pas une petite souris. Et je sais que j'avais du mal à me dire, bon, il faut y aller, il faut sortir de chez soi. Même pour moi qui aime être jouer mon spectacle, etc. Ça a été quand même une épreuve. Donc j'imagine que pour les gens qui sont anxieux, ça a dû être vraiment, vraiment difficile. Ouais.
Professeur Pellissolo, comment savoir si on souffre d'anxiété sociale? Comment posez-vous le diagnostic?
Alors le diagnostic donc d'anxiété sociale maladive, c'est vraiment tout ce que ça vous empêche de faire, d'être entravé dans sa vie, dans ses choix. J'aurais envie de faire une activité que je me restreins vraiment à faire par peur, pas forcément d'ailleurs consciemment au départ. C'est quand on analyse un peu, on se dit ouais, finalement ça me dit rien, mais c'est parce qu'en fait j'ai peur de pas répondre à des invitations, donc de pas sortir comme on le voudrait. Et puis même quand on le fait avec quelque chose qui est pénible, qui est lourd. Donc c'est vraiment subjectif, hein, parce qu'il n'y a pas une mesure complètement absolue, mais c'est à quel point ça me perturbe, ça m'empêche d'avoir ma liberté d'action, et ça souvent sur le long cours, parce que c'est...
Sur 6 mois, au moins.
Alors c'est, voilà, c'est forcément une histoire assez longue, parce que ça survient souvent dès l'enfance, hein, enfance, adolescence, et puis ensuite, si on ne fait pas un petit peu ce qu'il faut, ça peut durer parfois toute la vie.
Hein. Et puis il faut vraiment que la vie quotidienne soit perturbée par cette anxiété sociale. L'anxiété sociale est une pathologie, mais est-ce que la timidité est une pathologie?
Absolument pas, c'est un trait de caractère. On est d'accord, puisque c'est probablement une des conditions de bien vivre ensemble aussi, de ne pas être toujours dans l'extraversion à tout coup, et en tout cas l'agressivité, etc. Donc c'est un trait plutôt utile pour la société, alors qu'il faut arriver à dépasser en général avec l'expérience le plus souvent.
Alors venons-en à la pratique théâtrale pour surmonter une anxiété sociale. Sébastien Boller, vous racontez dans Cerveau et Psycho une expérience menée à l'Université du Michigan aux États-Unis en 2018, avec cette question: le théâtre d'improvisation serait-il un moyen efficace pour s'entraîner à mieux maîtriser sa peur des autres? Alors expliquez-nous un petit peu cette étude qui concerne 268 étudiants qui souffraient de troubles d'anxiété sociale et qui ont participé à des cours d'impro théâtrale pendant 10 semaines.
Voilà, effectivement, un programme de 10 semaines d'improvisation théâtrale, et on mesurait les symptômes d'anxiété sociale avant et après. Mmh. Et le résultat, c'est que pour la moitié d'entre eux, les symptômes avaient vraiment reculé. Ils avaient surtout beaucoup plus confiance en eux, ils étaient beaucoup plus disposés à prendre la parole, à parler de leur vie, à parler de leurs problèmes, à s'insérer dans des groupes, à être plus optimistes aussi sur leur avenir. Et donc, c'est quand même un effet assez significatif. Hein, sur 268 personnes, ça devient assez significatif, puis la moitié quand même, c'est quand même une belle proportion.
Et donc le théâtre d'improvisation permet donc à ces jeunes dans cette étude de mettre en scène de façon ludique l'interaction sociale.
Voilà, alors ça c'est l'analyse qui est faite de l'effet, à travers le fait de prendre la parole, non pas en s'exposant soi-même au regard des autres, mais en étant quelqu'un d'autre en fait, tout simplement. Je joue un personnage, donc peut-être que ce personnage est ridicule, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est moi qui suis ridicule. Enfin, c'est l'interprétation qui est donnée des résultats. Je ne sais pas si ça fait écho à ce que peut vivre un comédien. Mmh. Mais en tout cas, ça semble fonctionner assez bien. Le gros problème quand même dans l'anxiété sociale, en tout cas tel qu'il est avancé par les auteurs de l'étude, c'est aussi une question d'attention extrême portée à soi et de considérer que tous les autres vont porter un jugement sur vous. Et une fois qu'on est quelqu'un d'autre sur scène, évidemment, le jugement n'est plus du tout aussi corrosif.
Ouais. On est décentré.
On est décentré.
C'est ce décentrement qui fait de vous, Sébastien Castro-Valero, je rappelle que vous êtes membre du théâtre El Duende, dramaturge, comédien, metteur en scène, c'est ce décentrement qui vous permet de monter sur scène. Vous qui étiez timide, expliquez-nous cette transfiguration, le timide que vous êtes, qu'il ne l'est plus une fois sur scène.
Alors, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on est multiples. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, on a différents personnages à l'intérieur de nous-mêmes.
Nous sommes des boules à facettes.
C'est ça. Et à travers ce travail-là, à travers le masque, donc le personnage, effectivement, comme vous dites, on accepte une part de nous-mêmes, finalement. Et surtout dans un récit, parce que bon, là, on parle d'improvisation, mais moi, quand on construit un spectacle, on construit une histoire qui va se répéter, qui va être la même. Donc, il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, qui est le côté... on est en sécurité, d'une certaine manière. Et surtout, dans la répétition, on a le droit de se tromper. Ça, c'est aussi autre chose qui est très, très important. Souvent, les gens pensent au théâtre comme le moment où on va être devant les spectateurs. C'est pas ça, c'est un processus. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'accepte, et le public également. Puisqu'à travers ça, c'est nos points communs, nos parcours communs. C'est universel. Moi, j'adore travailler avec des amateurs parce que souvent, il y a des moments où je me dis, bon, lui, j'ai déjà travaillé avec cette personne, avec un autre comédien amateur, par exemple, parce que finalement, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques, toujours. Donc, ça rassure aussi de se dire que cette humanité, elle est multiple, et elle se construit et se déconstruit.
Sandra Colombo.
Ben oui, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, je me rends compte que moi, j'aime beaucoup, par exemple, jouer longtemps un spectacle. Parce que, justement, il y a cette chose de la répétition qui fait que, comme on est comme des artisans, en tout cas, moi, je considère qu'on est comme des artisans quand on fait du théâtre, plus on le fait et plus le geste va devenir sûr, plus le personnage va être interprété, plus on va prendre confiance et plus on va se dire « Ah, waouh, ça, je peux le faire et je peux le faire de mieux en mieux. » Et je trouve que ça, c'est une des grandes forces du théâtre qui se répète et pas de l'impro, justement.
Sébastien Castro-Valero.
Oui, non, mais complètement. Moi, de toute façon, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mais sincèrement, je le pense. Je pense que le fait de faire du théâtre partout, enfin, c'est un art qui est à l'Antiquité. Le théâtre servait aussi, il me semble, à Polydore, le théâtre Polydore. Voilà, il me semble que ça servait à soigner les gens aussi également.
À purger les passions.
C'est ça. Donc il y a la catharsis. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui vient de loin.
Et nous accueillons Fanny. Bonjour Fanny.
Oui, bonjour. Merci de prendre ma question.
Vous habitez, l'Hérault et vous avez surmonté votre anxiété pour nous appeler. Bravo.
Oui, j'espère que je vais bien m'en tirer pour vous expliquer.
Racontez-nous.
J'ai 70 ans.
Oui.
J'éprouve, quand je suis dans le cercle familial pour des occasions genre Noël, anniversaire, un sentiment d'isolement. Il faut dire que je suis dans ce groupe la seule personne vivant seule. J'ai des moyens financiers, enfin des revenus très très bas, donc je fais très très peu de choses. C'est difficile de paraître, même dans ce groupe familial, parce que les autres, heureusement, mes enfants, bon, mariés, ont des enfants, réussissent leur vie, enfin, comme on peut dire réussir, sont heureux, etc. Mais les autres adultes, sont au contraire de moi, ils voyagent, ils font plein de choses.
Et vous appréhendez, Fanny.
Et inconsciemment, ils nous le font sentir quand même.
Et vous appréhendez ces repas familiaux. Est-ce que vous avez pensé à faire du théâtre, peut-être, pour justement surmonter cette anxiété?
J'y avais pensé avant parce que j'aime le théâtre, la musique, etc. Mais votre émission ce matin, et merci France Inter et ceux qui décident des sujets, je vais peut-être sauter le camp. Ce contexte familial est encore plus, d'après moi, plus difficile qu'en société, parce qu'il y a, on est dans sur fond de familial, c'est-à-dire de recherche de chaleur familiale.
Et Fanny, je vais devoir, hélas...
Si quelqu'un là peut me dire quelque chose à ce sujet.
Hélas, je vais devoir un peu interrompre parce que la liaison n'est pas bonne. C'était très intéressant ce que vous nous disiez. Quel conseil on peut donc donner à Fanny, Sandra Colombo
Moi, Fanny, je vous encourage vivement à sauter le pas, en effet. Il n'y a pas d'âge pour commencer le théâtre, comme il n'y a pas d'âge pour commencer rien d'ailleurs, parce que plus on commence et plus on le fait, en fait.
Mais qu'est-ce que vous lui feriez faire à Fanny? Elle vient à ce premier cours, Sébastien Castro-Valero. Sandra Colombo, qu'est-ce que vous lui faites faire? Quel est le premier exercice?
D'abord, c'est le corps, vraiment, sincèrement. Et même à 70 ans, souvent, en plus, on vient, on travaille en groupe, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que le regard, il est bienveillant du groupe, on se sent assimilé, quelque part, on se sent faire partie d'une équipe. Je reprends ce que disait Sandra par rapport au sport, il y a vraiment des similitudes, cette idée d'équipe, de travail collectif, et le corps d'abord. Et ensuite, petit à petit, les émotions. Alors ça, c'est autre chose. La peur, la colère, la joie, la tristesse, ça a l'air basique, mais en fait, on est dominé par ces émotions. Et le théâtre, ça décortique tout. Et ça permet de se dire, ah oui, effectivement, c'est à travers le corps d'abord que j'apprends de l'émotion. C'est pas juste le mental ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce travail-là.
Est-ce que, par exemple, vous proposeriez à Fanny de l'improvisation, improvisation d'un repas de famille?
Ah ben, par exemple, ça c'est très cathartique pour le coup, de jouer, par exemple, tous les personnages de la scène. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait en psycho, hein, en thérapie, de jouer les différents personnages, de comment on répond, qu'est-ce qu'on aimerait dire, pourquoi. Et en fait, au fond, c'est là qu'on se rend compte que dans la famille, on a tous un rôle, on est tous assignés à un rôle, et il faut jouer son propre rôle. Et parfois, ben, on se dit, ben, c'est pas tout à fait comme ça que je voyais mon personnage, en fait. Et ça permet, le théâtre, justement, de peut-être casser un peu ces choses dans lesquelles on nous a enfermés.
Le regard du psychiatre...
Alors, sur le rôle vraiment thérapeutique du théâtre, moi, j'ai aucun doute, et d'ailleurs, ça fait des années qu'on, nous, on préconise, hein, pour nos patients, d'essayer de... Il y a même des troupes, je ne sais pas si vous le faites, qui font quelque chose vraiment de spécifique pour les personnes anxieuses, mais vraiment, il y a tous les ingrédients. On pourrait les reprendre un par un, vous avez parlé beaucoup du corps et des émotions, c'est évidemment central, mais il y a le côté jeu, quand même. Et c'est bien d'avoir des moments où on peut se détendre. Et il y a vraiment le côté d'entraînement et de répétition, parce que j'imagine que vous ne commencez pas tout de suite par la grande salle de 1000 personnes. C'est vraiment un... Non, mais pour les personnes anxieuses, je pense qu'il faut leur dire ça, de les rassurer.
Ah, oui.
Ça commence par des petits groupes, j'imagine, entre personnes bienveillantes, parce que c'est vraiment la clé, qui est un regard bienveillant, sécurisant, pour qu'on commence à faire des petits exercices, exactement comme en thérapie comportementale.
Question. Merci beaucoup, Fanny, de nous avoir appelé ce matin, et n'hésitez pas à nous écrire, hein, si vous suivez des cours de théâtre à la suite de cette émission. Marie-Laure Zunshine, de Femmes Actuelles.
Oui, je rebondis, Sandra Colombo, sur l'étude que citait tout à l'heure Sébastien Boller. Pour les jeunes, est-ce que finalement le théâtre n'est pas une porte d'entrée souhaitable pour les accompagner, pour lever cette timidité? On entendait Gilles Lellouche en début d'émission. Alors souvenez-vous, Emmanuel Macron, en janvier dernier, en 2024, avait déclaré vouloir rendre les cours de théâtre obligatoires dès le collège en septembre prochain, donc 2025. Alors on ne parle pas des moyens, quel prof, quelle salle, quel financement, même si évidemment c'est la base. Mais c'est une bonne idée, évidemment. On se dit, on l'a tous fait, hein. Souvenons-nous, Ali au tableau. Je sais pas ce que vous récitiez, un poème.
Mais comme Gilles Leloup, j'avais la chance d'avoir des institutrices et des instituteurs formidables en primaire, et donc c'est vrai qu'on jouait les fables de La Fontaine, on rejouait des scènes de Molière, enfin c'était absolument formidable. Ça me parle beaucoup, ce qu'on a entendu au début avec Gilles Leloup.
Et pour le coup, alors ça c'est quelque chose que moi j'ai dit à mes élèves, j'ai dit on n'est pas un concours de récitation devant le tableau, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'on a tous été traumatisés d'avoir été au tableau et de s'être affichés, comme disent les presque plus jeunes, devant le tableau, où on était bloqué comme ça en train de dire ben je le savais chez moi, puis là je ne sais plus. Et en fait, le théâtre, ça libère ça aussi beaucoup. C'est-à-dire que le corps rentre en action, l'imaginaire, ouvrir son imaginaire, c'est quelque chose qu'on a, que moi je trouve mes élèves ont quand même beaucoup de mal à faire, de se laisser porter par les sens, par ce qu'on imagine, ce qu'on ressent, etc. Et moi je trouve que ça serait formidable que les jeunes au collège commencent à... Et parce que le théâtre, ça oblige à être ensemble, malgré les différences. Et ça serait quand même super. Nous, on est pour que le théâtre arrive dès le collège.
Sébastien Boller, de Cerveau et Psycho.
Oui, ça me fait penser à des études antérieures sur les liens entre la pratique du théâtre et l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle qui est aujourd'hui considérée comme un très grand prédicteur de la réussite, à la fois dans la sphère privée et sur le plan professionnel. C'est la capacité à identifier ce qu'on ressent et mettre des mots dessus pour pouvoir ensuite l'exprimer et interagir avec les autres. C'est un grand atout dans la vie, et le théâtre, semble-t-il, a un très fort pouvoir pour développer l'intelligence émotionnelle, parce qu'on va dire, bah là, qu'est-ce que tu es en train de jouer? Bah, c'est de la colère, bah fais-le. Donc il se crée un dictionnaire intérieur du corps et de l'esprit qui met en parallèle des mots et des concepts avec des ressentis, et ça devient une boîte à outils que la personne peut ensuite utiliser.
Professeur Antoine Pellissolo.
Et puis sur une scène ou dans une salle de classe, parce qu'effectivement chez des jeunes ça peut être ça, il y a vraiment le jeu avec le regard des autres qui est croisé, c'est-à-dire qu'on voit les autres faire et si possible dans ce climat de non-jugement, etc., pour apprendre aussi. Et il y a tous les moyens de le faire par étapes, progressivement. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de suite l'épreuve. C'est vrai qu'à l'école, on associe souvent la prise de parole en public avec un examen, un jugement, et c'est ça qui parfois traumatise.
Avec une performance. Hein,
vraiment. Et oui, parce que pour certains, c'est vraiment un cauchemar au départ, et ils gardent ça toute leur vie. Donc il faut absolument jouer avec une situation, associer le jeu, associer l'entraînement progressif. On disait tout à l'heure, jouer un rôle, ça veut dire être quelqu'un d'autre, mais on sait qu'on est quand même soi-même, donc on peut petit à petit s'approprier les choses. On a un texte souvent, donc on a on a un peu déchargé du côté de voir. Alors l'improvisation, vous disiez tout à l'heure, on peut le faire aussi, mais c'est un cran au-dessus en général, parce que quelqu'un qui a peur de parler en public, il a souvent plus peur d'improviser, donc ça peut être peut-être progressif, parce que quand on a un texte, on peut au moins se libérer de « j'ai rien à dire », enfin c'est tout un apprentissage qui est vraiment bénéfique, je pense, et en effet à tous les âges, parce que 70 ans ou plus, c'est pas du tout un obstacle.
C'est un ours grognon, un peu timide, mais on l'aime bien, Éric Libiot et sa petite mythologie d'un objet du quotidien.
Ne dit-on pas des objets inanimés ?
Grand bien vous fasse.
Et la question s'est posée à mon esprit fulgurant.
Ali Rebéi.
Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?
Sur France Inter.
Alors, vous l'avez sûrement remarqué, mais depuis quelques mois, voire quelques années, le masque a changé de visage. Jusqu'alors, les choses étaient relativement simples. Le masque était un objet culturel et artistique et se trouvait un petit peu partout dans le monde et pour de multiples usages, en Afrique, en Asie, au carnaval de Venise, au 7e siècle avant Jésus-Christ, sur les façades des églises, sur les rings de catch, au Mexique, en Nouvelle-Calédonie, en Pologne, dans les caveaux funéraires, dans les films Vendredi 13 et Halloween, dans la cave de Zorro, pendant le Mardi Gras, pendant la guerre, pour les apiculteurs sous l'eau. Et en soudure et encore mille autres usages. Et parmi ces autres usages, le théâtre, évidemment, vous venez d'en parler, notamment la Commedia dell'arte avec Arlequin, Polichinelle et Pantalon. Car sur une scène de théâtre, le jeu fabrique un autre jeu. Alors pour faire court, dans le théâtre moderne, le masque disparaît physiquement, mais il est toujours là, invisible, pour jouer un personnage qui peut vaincre une peur, notamment nourrie par le confinement pendant le Covid. Nous y voilà. Jusqu'à présent, j'avançais masqué, mais c'est là où je voulais en venir, être ou ne pas être masqué, alors que le Covid sévissait dans les premiers mois de 2020. Le masque chirurgical, celui-là, manquait à l'appel, c'était le temps de la pénurie. Mais la vérité, elle aussi, inventait masqué, puisque selon le discours officiel, le masque ne servait à rien pour protéger du Covid. On le sait maintenant, le masque servait bel et bien, et il sert toujours en cas d'infection, mais il sert à la grippe davantage qu'aux panaries. Même si à l'époque du Covid, il était question de se cacher derrière son petit doigt, il n'y a décidément pas de hasard dans la langue française. Et voilà comment ce masque, vu partout et de tout temps, façonné par mille mains différentes, a changé de visage, il est devenu un objet politique. Métaphore, analogie, synecdote, périphrase, il y en a pour tous les goûts. Ce n'est pas si commun qu'un objet connu et remarquable s'efface derrière le concept qu'il a défini, et ce n'est pas fini, ça ne fait même que commencer. Lundi 10 janvier s'ouvre à Paris le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, un sujet devenu mondial et quotidien puisque l'IA est partout, tout le temps et de plus en plus. L'IA ou l'IAI quand ça se passe mal, et ça peut faire mal effectivement. Avec l'IA, les arnaques avancent à la fois masquées et à visage découvert. Tom Hanks fait la promotion du mutuel dentaire, faux. Alain Delon incite à utiliser un site de jeu en ligne, faux. Brad Pitt est dans un sale état à l'hôpital, faux. On ne sait plus si c'est un vrai faux masque ou un faux vrai masque. Et voilà des siècles que le masque était peinard, fabriquant tranquillement sa petite mythologie, mais à cause de l'actualité, il a dû remettre ses compteurs à zéro. C'est ce qu'il y a de fascinant avec les objets, on les croit inanimés, bien installés au mur ou sur une table basse, alors qu'ils sont toujours en mouvement. S'ils n'ont pas d'âme, ils racontent bien les mains, bel et bien le monde.
Et je note la phrase du jour, Éric Libiot, le jeu, G-E-U, fabrique un autre jeu. C'est beau ça, Sandra Colombo.
Ah bah c'est magnifique, je l'ai noté également. Merci Éric.
Tous les épisodes de la petite mythologie d'un objet du quotidien d'Éric Libiot, eh bien c'est à podcaster sur l'appli Radio France.
Grand bien vous fasse.
C'est bien vous qui avez découpé notre annonce dans le journal au sujet de la timidité.
Oui.
Eh bien, je suis le représentant de la IPA, l'Institut de psychologie avancée. Le drame de la timidité, monsieur Renaud, c'est qu'il ronge les ailes de l'ambition. C'est bien vrai, ça.
Sur France Inter.
Quels sont les pouvoirs de la pratique théâtrale sur l'anxiété sociale ? C'est notre thème ce matin, avec le mensuel Cerveau et Psycho, et avec un message personnel de notre technicienne en régie, Élise Christophe, qui exhorte son mari à refaire du théâtre, son mari Thibault. Et par le plus grand des hasards, Sandra Colombo, vous étiez la prof de ce Thibault.
Je viens de
c'est le hasard total.
Alors Thibault, reviens. Voilà, je t'attends. Allez.
Voilà, le message est passé. Si vous avez d'autres message personnel à faire passer, n'hésitez pas à passer par Grand Bien Vous Fasse. Hein. Faites-vous plaisir.
Vous, les femmes, vous...
Je n'ai pas de problème avec les femmes. Elles me terrorisent, c'est tout.
Vous n'aimez pas les femmes ?
J'adore les femmes. J'aime leur conversation, j'aime... J'aime leurs produits de beauté, de soins, j'aime tout.
Et n'aimeriez pas... Tomber amoureux ? Je vais vous donner un petit exercice. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner.
inviter quelqu'un à dîner. Je vois. Un homme ou une femme ?
Extrait du film Les émotifs anonymes d'Améris, professeur Antoine Pellistolo. Si on souffre d'anxiété sociale, la pratique théâtrale évidemment ne remplace pas une thérapie. Quelle est la thérapie préconisée si on souffre d'anxiété sociale ? Ce sont les thérapies comportementales et cognitives, c'est ça, les TCC ?
Oui, comme dans la plupart des troubles anxieux, ce sont des méthodes qu'on connaît vraiment maintenant depuis nombreuses années et qui fonctionnent vraiment très bien. Enfin, c'est assez spectaculaire chez beaucoup.
L'idée, c'est de mettre le patient face à l'objet de sa peur, de sa phobie ?
Oui,
grosso modo. Hein.
Oui, c'est ça, de désensibiliser, en fait, les fameux circuits de la peur qu'on a conditionnés en général à éviter le regard de l'autre. Donc là, il faut se réhabituer progressivement, donc avec un thérapeute qui va vous guider et qui va permettre aussi de relativiser toutes les appréhensions et remettre en cause les jugements qu'on a sur soi-même, puisque très souvent, on accompagne chaque confrontation d'auto-jugements négatifs, d'une forme de propagande quand même ça contre soi, en dévalorisant. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un, souvent, qui soit là pour relativiser, avoir un regard neutre, bienveillant, encourageant, parce que c'est un travail de fond, hein, c'est pas d'un jour à l'autre, on va pas se débarrasser des choses. Une thérapie, ça dure quelques mois. Si possible, en groupe. Bon, la plupart des thérapeutes ne peuvent pas facilement l'organiser. Il y a de moins en moins de centres qui le font, mais c'est quand même la meilleure situation quand on le peut. Sinon, c'est en individuel, avec un programme en effet de confrontation progressive qui va permettre aussi de travailler plein de sujets annexes, hein, puisque on ne l'a pas dit, mais par exemple, l'estime de soi, qui est souvent défaillante chez les personnes qui ont une anxiété sociale, soit au départ, soit comme conséquence, ça sera la partie cognitive de la TCC qui sera là intéressante.
L'idée des TCC, des thérapies comportementales et cognitives, c'est donc de se décentrer, parce que les personnes atteintes d'un trouble d'anxiété sociale portent une attention beaucoup trop excessive sur elles-mêmes. Hein.
Elles sont hyper vigilantes à tout ce qui pourrait être défaillant. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise ? Est-ce que je me tiens bien ? Est-ce que je rougis ? Est-ce que je transpire ? Et puis je regarde l'autre s'il n'est pas en train de me juger, et pas du tout de bien m'écouter ou bien comprendre ce que je dis, c'est qu'est-ce que je donne comme impression. Et cette hyper attention, elle est délétère, elle sert à rien en fait, elle empêche d'être vraiment dans l'échange. Donc il y a un aspect de la TCC qui consiste à se décentrer en effet de soi-même, mais c'est surtout en fait la confrontation régulière, progressive, bienveillante encore une fois, qui permet de désensibiliser cette peur.
Alors on peut coupler donc ces TCC quand on souffre d'anxiété sociale avec des cours de théâtre, et puis si on est timide, on le rappelle, la timidité n'est pas une pathologie, on peut également monter sur scène, comme Marion qui nous écrit « J'étais une jeune fille complexée, timide, terriblement angoissée par le regard des autres. À 12 ans, ma mère m'a inscrite à des cours de théâtre dans une troupe de 40 jeunes de 10 à 18 ans. Après un an, j'ai complètement changé. Quelle libération !» Et vous, Sandra Colombo, vous avez l'une de vos élèves, il y a 4 ans,
Adèle,
qui était complètement timide.
Qui avait une vraie phobie sociale.
Elle avait une phobie sociale.
Ah oui, complètement. Elle était en panique, c'est-à-dire vraiment presque à la limite de la crise d'angoisse. D'ailleurs, au départ, quand elle faisait ses premières scènes, elle faisait des crises d'angoisse. Des fois, elle n'a pas pu y aller. Elle fait de la cohérence cardiaque, elle fait de la méditation, etc. Et maintenant...
Elle suivait une thérapie, hein.
Elle était en thérapie, etc. Elle a quitté son travail. Elle fait plus que des blagues sur scène. Elle a monté un comédie club et elle est en train d'écrire son spectacle. En 4 ans. Et c'est dingue. Je lui dis, et là, elle a joué. Donc, dans la soirée impro qu'on organise à l'école Paul Clément, elle a joué devant 600 personnes son sketch. Ça s'est extrêmement bien passé. Et je lui dis, mais... regarde le chemin que tu as parcouru, c'est incroyable, quoi. C'est génial.
Antoine Pellissolo.
Oui, alors je pense qu'on peut en déduire deux choses. D'une part, que ça se soigne bien, entre guillemets, alors c'est pas un beau terme, mais on peut tout à fait avancer et s'en sortir. Et puis par ailleurs, que l'anxiété sociale, ça résume pas la personnalité. On peut avoir beaucoup de craintes et par ailleurs avoir très envie d'aller vers les autres. Et même se donner en spectacle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il faut pas non plus donner ça comme objectif à tous les timides, de disant il faut que je termine sur une scène. Mais pour ceux qui ont cette appétence, et vraiment l'un n'empêche pas l'autre, on peut avoir les deux à la fois, c'est ça qui parfois est surprenant, et il faut bénéficier dans ce cas-là du moteur qui est l'envie d'aller vers les autres.
C'est ça, surtout que moi, l'exercice que je leur fais faire, c'est donc d'écrire leur texte. Donc en plus, ils ont l'angoisse d'écrire quelque chose pour eux qui vont jouer, et c'est une double angoisse, et elles s'en sortent très bien, et en effet, il y a beaucoup de timides qui sont dans mes cours et qui progressent beaucoup, parce que en effet, on s'habitue en fait.
Et nous accueillons Françoise, vous appelez du Loir-et-Cher. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Alors, vous, vous êtes mis au théâtre, au cours d'impro sur le tard, c'est ça?
Absolument. Oui. J'avais plus de 55 ans.
Mmh. Et vous en avez 80, je m'autorise à le dire, aujourd'hui.
Absolument.
Alors, racontez-nous le bien que vous ont fait ces cours d'impro.
Ah ben, les cours d'impro permettent de profiter des situations pour soit complètement déjanter, soit complètement profiter d'une situation qui pourrait être agressive et complètement la retourner à son profit. C'est une certaine libération, que ce soit cours de théâtre ou surtout, moi j'ai fait des cours de clown théâtre, qui est super, ça permettait d'être complètement libéré dans son corps, dans sa tête, et une fois que le passage était fait, et ben on se retrouvait soi-même, mais il y avait quelque chose d'autre qu'on avait acquis.
Vous étiez plutôt timide, Françoise, dans la vie ?
Absolument, oui. Plus que timide, même plus qu'émotive, voilà.
Et donc, la pratique théâtrale, les cours d'impro, les cours de clown, vous ont réellement aidé ?
Absolument. Et même le cours de théâtre, parce que je me rappelle qu'on avait fait, il nous avait fait écrire une pièce qui était très très bien, enfin un petit bout de texte, hein, bien sûr, mais ça m'avait permis de me faire une situation, d'écrire quelque chose. Non, sincèrement, c'est très libératoire.
Le regard de Sébastien Castro Valero, cofondateur du théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine.
Ah, moi, je trouve qu'elle a, enfin, elle a tout dit. Hein. C'est aussi, quand on parle de l'écriture, c'est s'emparer du réel. Et aussi, d'une certaine manière, se libérer. En fait, on a tous des étiquettes ou des cadres, voilà. Et là, d'un coup, on a ce pouvoir-là. Mmh. En fait, c'est magique, vraiment. Enfin, moi, je suis passionné, hein, j'adore mon métier, mais c'est vrai que c'est un espace magique.
Tiens, allez, un dernier conseil. Il nous reste une petite minute. Si on ressent une appréhension à l'idée de parler en public, hein, on sait que c'est la terreur la plus communément admise. Un conseil, professeur Pellissolo, si voilà, on doit parler en public et on n'ose pas, on est timide, ou voire plus.
C'est banal, mais s'entraîner. Et on peut s'entraîner tout seul, c'est ça qui est un peu... L'imaginaire sera là, vous pouvez... Et je crois que tous les acteurs le font, hein, donc il n'y a aucune honte à avoir ça, à faire. C'est oser, je crois que c'est le mot-clé, c'est oser.
S'entraîner devant sa glace.
Oui, parce que comme ça, on est un peu plus familier avec la chose.
S'entraîner avec son téléphone portable qui permet de se filmer et ensuite de se regarder. Et ça permet d'entendre aussi comment on pose sa voix, comment on parle, est-ce qu'on parle trop vite, quels sont les gestes parasites qu'on a. Et plus on se regarde et plus on apprivoise son image et plus c'est facile de parler avec les autres parce qu'on sait quelle image on renvoie aussi.
Sébastien Bollard.
Il y a aussi des études qui ont montré qu'une courte formation pour expliquer aux personnes ce que c'est que le stress et la fonction du stress pour performer, leur donne confiance et leur permet de dire « Tiens, ce stress-là, je peux l'utiliser. »
Sébastien Castro Valero.
Il faut que tout le monde fasse du théâtre, je le redis, parce que je pense que c'est important ce genre d'émission aussi pour les gens qui l'écoutent et qui se disent « Voilà, il faut qu'ils sautent
le pas. » Ça peut être un déclic.
Mais oui, je pense vraiment.
Merci à tous, merci professeur Antoine Pellissolo. La nouvelle peur des autres, un ouvrage de référence sur l'anxiété sociale et la timidité, c'est en poche chez Odile Jacob. Merci Sébastien Bollard. Le papier « Quand le théâtre apaise l'anxiété sociale », c'est à lire dans Cerveau et Psycho. Merci Sandra Colombo. Ce soir, votre spectacle Que faire des cons, c'est à 21h15 au Point Virgule à Paris. Et merci Sébastien Castro Valero. Votre prochain spectacle, D'autres jours viendront, aura lieu du 6 mars au 11 avril prochain au théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine, et les rencontres à part entière du 17 février au 2 mars, toujours dans le même théâtre.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.